Vous écoutez Les Nuits de France Culture, Nuits rêvées de Michel Suria. À nouveau, merci de nous accueillir, vous, dans ce qui constitue pour vous un monde de voix, elle qui se décompose en quelque sorte, afin que d'elle se forme chaque fois un monde nouveau. Je fais peur, disait Bataille, non pour mes cris, mais je ne peux laisser personne en paix. Et dans son œuvre, il n'y a que la réciprocité entre les libertés en art comme en politique qui tiennent. N'est-ce pas le sens même de polième, le polième noélien? C'est votre néologisme sur Bernard Noël comme pour barrer les mots de la domination et de la censure.
La présence de Mascolo tout à l'heure, la présence de Bataille, la présence de Blanchot, ce sont autant de noms auxquels ce mot-là aurait peut-être pu s'appliquer, à ceci près que le poétique ou le poliétique n'est pas pareillement mis en jeu. Effectivement, la contraction, la concrétion de ces deux mots en un.
Polis poétique.
Voilà.
Oui, polis poésis.
Servait à désigner quelque chose qui me paraît être la substruction même de toute littérature, la substruction de toute littérature, son substratum de toute littérature, elle est née en tant que politique. La littérature a pour origine, a pour évidence une liberté qui doit être sans borne, que rien ne peut contenir. C'est la littérature et la pensée qui ont constitué une liberté dont la politique s'est inspirée, dont la politique, à partir de laquelle la politique s'est construite au XVIIIe siècle, par exemple, l'évidence en est entière. Elle ne cesse pas d'être libre d'une façon qui inspire la politique. Et je les considère effectivement, résumé comme j'essaie de le faire là, ne cesse pas d'être indissociable l'une de l'autre à mes yeux. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire que la littérature soit politique au sens où elle s'asservirait à quelque but que ce soit. Il s'agit que tout but dépende de toute littérature et que tout but soit dessiné par la littérature, ce que j'appelle la littérature, évidemment, pourrait vous valoir pour tout art en général.
Pour l'intonation des voix chères qui se sont tues, je vous cite Michel Suria.
On cite Verlaine. Effectivement, les voix que nous entendons là sont, et que nous entendrons là sont pour beaucoup des voix maintenant d'amis chers et qui ont disparu. Je pense à Philippe Lacoulabarthe, je pense à Jean-Noël Vuarnet, à Roger Laporte, bien évidemment. Et d'une certaine façon, j'ai toujours entendu les voix, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, comme étant celles des fantômes, comme celles étant celles des disparus. Il y a une cohorte de voix possibles. Peut-être est-ce tout ce qui reste des amis que nous avons eus, ou tout du moins est-ce qui reste le plus vivant. Est-ce la voix, plus que l'image, il me semble, beaucoup plus que l'image, beaucoup plus que la figure. La voix, son intonation, sa présence, sa puissance, sa violence, même s'agissant de ceux que nous avons connus, me paraît la déterminante.
Philippe Lacoulabarthe citait parfois Valérie pour dire qu'au fond, le moi n'est qu'un écho. Ce qui voudrait dire aussi d'ailleurs que la philosophie, ce n'est pas que penser. Et d'ailleurs, c'est ce que vous explicitez de façon diverse, prismatique, j'allais dire, dans Humanimalité aussi, puisque là, l'animal intervient. Et je pense que d'ailleurs, nous y reviendrons dans la nuit, sur cette présence de l'animal, y compris dans la voix, et la voix humaine en particulier. Le second, Jean-Noël Vuarnet, à 5h10... lui, il est flamboyant, nous l'écouterons. Il faudra attendre 2005 pour accéder à son personnage anglais, paru finalement chez Léo Cher, collection Ligne. Et ce sera Démarche avec Gérard-Julien Salvi en 1985, date de la première parution, mais non distribuée de son ouvrage. Pourquoi Michel Suria, pourquoi David Warilow pour Beckett est-elle la toute première voix de cette nuit à être rêvé quand vous m'avez écrit?
Parce que c'est la voix de Beckett d'abord, et c'est la voix qui se substitue à celle de Beckett. Beckett s'est donné comme voix publique la voix de Warilo. Il s'en est donné plusieurs, bien évidemment beaucoup, ou s'il ne les a pas données, beaucoup se sont donnés à la voix de Beckett. Mais la voix, sans doute, ventriloque de Beckett, c'est Warilo. Et pour l'avoir vu sur scène, j'ai gardé le souvenir d'une exactitude vocale, théâtrale, littéraire absolument parfaite. Je n'imagine pas qu'on puisse porter plus loin la perfection de cette indissociabilité de la littérature, de la voix et du théâtre.
Merci Michel Suria. Rendez-vous donc à la fin de cette nuit pour la clore et pour nous dire au revoir.